vous raconter l'histoire du désir, ou plutôt l'histoire d'une femme. Elle désire un homme qui est loin, et surtout loin de savoir qu'elle le désire à ce point. Il est tellement loin qu'il ne la remarque même pas, et elle souffre de ce désir insatisfait, elle souffre d'être loin de son objet, elle souffre d'en manquer. Elle se sent vide, creuse, vaine, inutile. Elle a l'impression de n'être qu'un néant que seul pourrait venir combler l'objet de son désir. L'impression de n'être rien, rien que de l'attente, de la souffrance. Mais lui, à l'autre bout de la pièce, souriant au beau milieu des convives, il continue à l'ignorer, enfin même pas, il ne sait même pas qu'elle existe. Et puis, tout change. Soudain, on ne sait pas pourquoi, elle comprend. Il ne l'a toujours pas remarqué, mais elle comprend. Que tout à son désir, elle n'est pas vide, mais pleine. Pleine de vie d'attente et d'imagination. Pleine de fantasmes, de projections, de représentations. Pleine de rêves, pleine d'espérance. Elle ne connaît pas la phrase de Gilles Deleuze, mais elle est d'accord avec lui. Le désir ne manque de rien, et surtout pas de son objet. Alors, au lieu de souffrir du manque, elle se retrouve à jouir d'une intensité d'existence inédite. Elle n'a même plus besoin de lui, même plus besoin de son regard. Tant la vie de son désir suffit à la combler. Suffit à faire sa joie. Le désir est manque, mais également plénitude. Et c'est alors, en cet instant précis où elle le comprend, en cet instant comme suspendu, que son regard à elle tombe sur le sien à lui. Oh, ce n'est qu'un instant, une seconde peut-être. Vous savez, ce regard un peu trop appuyé, juste un peu trop. Ce regard qui ne ment pas quand on sait que c'est maintenant le trouble, maintenant le trouble tous les deux, maintenant que l'on tombe amoureux. La pudeur est là peut-être, dans ce regard qui ose s'arrêter, mais pas trop. Trop, ce serait impudique, mais moins, ce serait trop peu. Mais là, c'est juste bien. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut de pudeur, ou peut-être d'impudeur. C'est selon. Juste ce qu'il faut de pudeur, ou peut-être d'impudeur, pour nourrir le désir. Pour en parler ce matin, de la pudeur et du désir, j'ai la grande joie de recevoir le philosophe et musicien Éric Fiat. Bienvenue, cher Éric. Éric, dont le nom évoque quelque part déjà la lumière, bienvenue sous le soleil de Platon, pour nous éclairer sur cette belle question. La pudeur, ami ou ennemi du désir?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Éric Fiat, bonjour.
Bonjour Charles Pépin.
Ça me fait plaisir de vous voir.
Mais moi de même.
Vous allez bien?
Très bien, très bien, très bien. Alors, mon violoncelle répond assez bien en ce moment, rien que ça, c'est une petite joie.
Oui, parce que justement, j'en profite pour vous présenter, vous êtes philosophe, auteur de plusieurs livres sur la fatigue, sur la dignité, sur la pudeur évidemment, mais aussi, à vos heures perdues, musicien, violoncelliste, et vous avez travaillé notamment sur la question qui nous intéresse aujourd'hui, la pudeur. Alors est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, et puis peut-être commencer à cette occasion par nous définir la pudeur?
La pudeur, c'est quelque chose qui me semble universel. Le désir qui se trouve en chaque être humain que tout de son corps ne soit pas en pleine lumière, que tout de son âme ou que tout de sa vie ne soit pas montré. Elle est au fond la vertu de réserve. Alors, vous savez, Charles, que nous autres philosophes, nous aimons bien l'étymologie.
Ouais.
Et peut-être que la vérité de la pudeur se trouve dans le mot qui la désigne. Pudeur vient du latin pudere, qui veut dire avoir honte. Mais cela laissera à croire qu'il n'y a pas de différence entre la pudeur et la honte. Pour une fois, l'étymologie n'a peut-être pas raison, car il me semble qu'il ne faut pas confondre le pudique et le honteux. Le honteux voudrait disparaître à tous les regards. Le pudique se montre discrètement, le honteux se tait. Le pudique s'exprime par la litote ou l'euphémisme. Donc,
vous diriez que la pudeur, c'est la peur d'avoir honte quand même?
C'est ça. La pudeur est une espèce de honte en puissance ou une puissance de honte. Le pudique n'a pas honte, mais il craint d'avoir honte.
Donc la pudeur indique un rapport à soi en même temps qu'un rapport aux autres?
Tout à fait, tout à fait. Je reviens à votre introduction. Ce n'est pas de la flatterie que de dire je l'ai trouvée très 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 belle. Et en effet, le désir est à la fois manque et richesse. Hein.
Ouais.
Vous l'avez dit, et puisque nous sommes sous le soleil de Platon, il faut rappeler la magnifique histoire racontée dans le banquet par Diotime, vous savez, la seule femme qui assiste au banquet, au moment où les convives se demandent d'où vient Eros. Eros, c'est le petit dieu du désir. Qui est son père, qui est sa mère? Et à ce moment-là, Diotime raconte l'histoire suivante. Il paraît que, sur l'Olympe, on organisa une sorte de grande fête en l'honneur de la naissance d'Aphrodite. Et dans cette fête, il n'y avait pas que des dieux olympiens, il y avait aussi des personnages intermédiaires. Et une certaine Pénia, dont le nom veut dire le manque, la disette, un personnage efflanqué, maigre, qui veut qu'on lui donne de l'amour, mais on ne lui donne jamais, hein, une espèce de mendiante de l'amour, une espèce d'Enrico Macias avant la lettre. Eh bien, cette Peña demande de l'amour, tout le monde la chasse, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un certain Poros. Et Poros, ça veut dire en grec la plénitude, la richesse. Mais Poros a abusé de nectar, il est rond comme une queue de pelle, déchiré comme un drap de pauvre, je ne sais comment le dire. Il s'est donc endormi. Peña voyant.
Je vous interromps deux secondes pour vous poser une petite question. C'est comme ça que vous parlez à vos élèves à la faculté, parce que vous enseignez à la faculté de laquelle déjà?
Elle s'appelle Gustave Eiffel maintenant.
C'est pour ça, mais elle s'appelait comment avant?
Elle s'appelait Université Paris-Esmar-de-la-Vallée.
Voilà, et vous enseignez toujours comme ça, plein d'histoires, plein de narrations, de littérature au fond.
Oui, oui, j'avoue que j'ai beaucoup hésité entre la philosophie et la littérature.
On en parlera après, mais reprenez le récit.
Alors, le récit, c'est donc Peña, voyant Poros endormi, se coucha contre lui et se retrouva enceinte de Poros. Ouais. Et elle donne naissance à un certain Eros. Et comme le dit Platon, plutôt Diotime, Eros, le désir, ressemble à sa mère, puisqu'il est manque, mais ressemble à son père, puisqu'il est richesse. Et en effet, le désir n'est pas que manque, même si l'étymologie nous le murmure. Désir, ça vient de décidere, qui veut regretter l'absence de, souhaiter la présence de. Donc on ne peut désirer que ce dont on manque. Hein. Je ne désire pas être en face de vous, je le suis. Cependant, le désir n'est pas que manque, il est aussi richesse. Et en quoi Eros ressemble à son père? Parce que désirer, c'est manquer d'un objet dont on possède l'image. Donc, si on possède l'image de l'objet, cette image déjà est un enchantement.
Vous voulez dire peut-être que vous ne choisissez pas votre camp entre d'un côté ceux, on va dire, comme Deleuze ou Spinoza, qui pensent que le désir est plénitude, ce que j'ai un peu évoqué dans l'introduction, et puis ceux qui pensent que le désir est manque. Vous vous répondez, les deux, mon général, c'est
exactement,
ça
je ne choisis pas. Platon est le plus grand philosophe du désir. Je dirais qu'en effet, certains ont un peu trop insisté sur la dimension de manque, je ne sais pas moi, Lévinas, Lacan peut-être, et d'autres trop sur la dimension de richesse, Spinoza, ouais. Deleuze. Non, non, Eros est fils de Poros et de Peña. Et finalement, le désir nous laisse dans l'incertitude suspensive d'une hésitation. On a envie, on est à la fois plein et riche, on a envie qu'il se réalise et en même temps pas.
On comprend donc pourquoi, enfin si je vous suis bien, la pudeur permet de nourrir le désir, puisque si précisément le désir est à la fois plénitude et manque, quelque chose comme la pudeur qui montre en cachant, exactement, peut-être nourrit bien ce désir.
Exactement, et je crois que c'est Kant qui l'a fort bien dit. Dans un texte peu connu, Kant réfléchit à la feuille de figuier. Alors nous, on appelle ça en français plutôt la feuille de vigne, vous savez, la feuille qui est venue au sexe d'Adam et Ève après qu'ils avaient croqué le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Kant écrit en substance: la feuille de figuier fut un grand progrès dans la civilisation. Outre la décence, elle permit le désir. Et Kant dit en effet que la feuille de figuier soustrait l'objet au sens. Peut-être qu'il faut qu'on explique ça à nos auditeurs. Ça veut dire quoi? Quel est cet objet qui est enlevé au sens par la feuille de figuier? Eh bien, c'est le sexe d'Adam pour Ève et le sexe d'Ève pour Adam. Avant, il le voyait et donc il ne le désirait plus. Maintenant qu'il ne le voit pas, il le désire.
Vous voulez dire qu'il faudrait cacher pour que le désir soit nourri, c'est ça? Cacher, mais cacher pas complètement.
Pas complètement.
Suggérer.
Suggérer.
Alors qu'est-ce que vous pensez du string alors?
Ah mon Dieu,
parce que le string,
que mon avis sur le sujet intéresse mes auditeurs.
Oui, je crois.
Écoutez, il y a une formule magnifique de Georges Moustaki, qui n'était pas du tout un puritain, plutôt un libertin, qui a dit un jour: je n'aime pas le string. Le string déshabille les femmes avant moi, c'est pas du jeu.
Oui, mais si on pense à simplement le haut du string qui sort par-dessus le jean. Dans ce cas-là, il y a un jean, donc le string suggère plus qu'il ne voile. Le string dans ce cas voile plus qu'il ne dévoile.
Mais bien sûr, mais il n'y a aucun jugement à porter à ce sujet. Vous me demandez mon avis, je vous le donne. Vous savez, il faut célébrer ce que j'appellerais l'inlassable inventivité d'Eros. Eros est un petit dieu tellement inventif. Et après tout, si certains lui rendent hommage en se vêtant plutôt comme ci, plutôt que comme ça, eh bien, allons-y.
J'ai lu dans votre travail quelque chose de très intéressant sur le porte-jartel, notamment sur le fait qu'il aurait été inventé par Kant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça?
Alors oui, Kant, évidemment, ne jouit pas de réputation fort joyeuse dans l'histoire de la philosophie et à l'université. Et pourtant, on croit que Kant est l'inventeur du porte-jartel. Attendez.
Expliquez-nous un petit peu.
À l'époque, les hommes portaient des bas. Et Kant, qui était un homme très obsessionnel, ne supportait pas qu'à la fin de la journée, ses bas descendissent, tombassent. On n'avait pas encore inventé le dim-up, si vous voulez. Et remarquant, Kant était très mince, que sa taille était plus petite que ses hanches, eh bien, il avait inventé un système d'épingles qui retenait ses bas. Donc, il avait une ceinture autour de la taille et des épingles qui tenaient les bas. C'est l'ancêtre du porte-jartel. Rendons hommage à Kant, ne serait-ce que pour cela.
Très bien. J'aimerais vous faire réagir à un poème de Paul Valéry qui porte pour titre Les Pas, que vous connaissez, dont vous parlez très bien, pour voir s'il n'y a pas là quelque chose de très beau sur ce que c'est précisément que la pudeur. Et sachez, pendant que je vous lis ce poème, que je voudrais qu'on parle un peu plus précisément de vous dans la suite de l'émission, et notamment de ce qui vous a conduit à réfléchir à cette belle notion qu'est la pudeur. Allons-y, Paul Valéry. « Si de tes lèvres avancées tu prépares pour l'apaiser, à l'habitante de tes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas. »
Merveilleux poème, je me le récite souvent. « Si de tes lèvres avancées, tu prépares pour l'apaiser à l'habitant de tes pensées, la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas. » C'est-à-dire qu'en effet, la pulsion ne supporte pas l'attente, le désir s'en enchante. Je crois que cette distinction est capitale pour parler avec plus de précision du sujet qui est le nôtre. La pulsion ne supporte pas l'attente. Le désir, en revanche, s'en enchante et en effet, retarder le moment du baiser lui donne encore plus de valeur. Louise de Villemorin avait dit « La pudeur fait le prix de l'amour et le charme des abandons. » Parce que l'abandon est retardé, il n'a plus de valeur que s'il était trop vite donné. Et je crois, si vous voulez, que justement, la feuille de figuier, comme le dit Kant, fait passer de l'impulsion passagère animale au désir. L'excitation s'accroît sous l'effet de l'imagination. Et en effet, si je vois tout de suite ton corps nu, si je sais tout de suite que ton baiser va me venir, je n'aurai pas le temps de les attendre et de les imaginer. Le désir, c'est l'attente de ce qui n'attend pas. C'est une définition que je propose sans beaucoup de succès.
Pourquoi sans beaucoup de succès?
Peut-être parce que je ne sais pas bien l'expliquer.
Mais j'avoue moi-même, pour être honnête, que quand j'ai lu cette définition dans votre texte, elle m'a surpris. Le désir est l'attente de ce qui n'attend pas. Vous voulez dire que c'est l'attente imposée à une pulsion qui réclamerait d'être satisfaite immédiatement?
Mon Dieu, vous l'avez défini, vous avez donné de ma définition l'explication que je cherchais depuis longtemps. Alors, en effet, ça n'attend pas parce qu'il faut que j'aie cet objet, il faut que j'aie cet être dans mes bras, il faut que je cueille les doux fruits d'amour dans tes bras, il faut que tu me donnes ce baiser, ça n'attend pas. Et en même temps, je sais que si ça vient trop vite, ça aura moins de prix que si ça vient un peu lentement. Voilà pourquoi le désir, c'est peut-être l'attente de ce qui n'attend pas. Et la différence entre la pulsion et le désir, c'est justement que dans le désir humain, il y a une obligation, je crois, à considérer l'être qu'on a en face de soi. La morale interdit la réduction de l'autre au statut d'objet. Kant l'a bien dit, ne traite jamais autrui simplement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin, ne regarde jamais autrui.
Vous voulez dire qu'il pourrait y avoir une dimension morale dans la pudeur?
Oui, mais une morale...
Pas simplement une dimension érotique.
Il y a les deux. Elle est à la fois le piment du désir et une vertu, en effet. Une vertu au sens où Aristote disait que le courage, la générosité sont des vertus, c'est-à-dire des qualités morales par lesquelles on fait bien son métier d'homme. C'est ça une vertu. L'homme courageux fait mieux son métier d'homme que l'homme lâche ou l'homme téméraire. L'homme généreux fait mieux son métier d'homme que l'homme avare ou l'homme prodigue. Eh bien, il me semble que l'homme pudique fait mieux son métier d'homme que l'homme qui manque de pudeur, c'est-à-dire l'obscène. Ou celui qui en a trop, c'est-à-dire le pudibon ou le prude.
Parce que si je vous écoute bien, si vous dites que la pudeur n'est pas pudibonderie et qu'elle n'est pas non plus obscénité, elle se situerait finalement à égale distance de ces deux excès, d'un côté le prude ou le pudibon, de l'autre l'obscène excessif. Et ça nous rappelle effectivement cette belle définition de la vertu chez les Grecs anciens, notamment chez Aristote, la vertu comme une juste mesure. Vous diriez de la pudeur, quelle est cette juste mesure qui va nourrir le désir?
C'est ça, elle est la juste mesure entre le vice par défaut de pudeur, c'est-à-dire l'obscénité, et le vice par excès de pudeur qui est la honte. Ce qu'il y a de génial dans la définition d'Aristote...
Mais écoutez, je vous interromps parce que j'ai jamais bien compris cette définition finalement de la vertu comme juste mesure. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu mieux finalement en quoi la juste mesure est vertueuse?
Alors,
si on prend l'exemple de la pudeur qui est à égale distance de la pudibonderie et de l'obscénité, en quoi la vertu est une vertu du juste milieu. Dans ma culture à moi, et je suis pas le seul, je crois, le juste milieu ne fait pas vraiment désirer. Il fait un peu fuir, il est un peu un ventre mou, comme un centre.
Alors,
en fait.
Ducey, je vous embêtais avec le patois philosophique. Eh bien, il est clair qu'Aristote, écrivant en grec, n'emploie ni le mot juste milieu, ni le mot juste mesure, il emploie le mot mésotès, M-E-S-O-T-E-S, mésotès. Or, moi, je n'aime pas la traduction de mésotès par juste milieu, pour les raisons que vous avez dites. Je préfère la traduction de mésotès par juste mesure, parce que, ce qu'il faut bien comprendre, alors Aristote dit que la vertu est une juste mesure entre le vice par défaut et le vice par excès, mais la vertu n'est pas au milieu d'un segment de droite, à l'une extrémité duquel on trouverait le vice par défaut, à l'autre extrémité duquel on trouverait le vice par excès. Non, la vertu est au sommet d'un triangle aigu, qui est bâti de telle sorte qu'il y a une étrange proximité entre le vice par défaut et le vice par excès.
Je crois que je comprends. Vous voulez dire que si je vous suis bien, si je suis pudibon ou si je suis obscène, de la même manière, je suis en deçà de mon humanité. Et si je suis aussi loin de la pudibonderie que de l'obscénité, alors peut-être je pourrais trouver la vertu de la pudeur.
Mais bien sûr, et surtout...
Le juste milieu alors devient un sommet...
La juste mesure, s'il vous plaît.
Oui, mais pour le comprendre d'une métaphore géométrique, le juste milieu devient un sommet. C'est un peu comme on tirait les extrémités et que bondissait le sommet comme un idéal de vertu.
Très belle définition, mais surtout ce qui crée la proximité du vice par défaut et du vice par excès, bref, ce qui crée la proximité de l'obscène et du pudibon, c'est qu'ils ne sont pas désirables. L'obscène coupe l'herbe sous le pied du désir. L'obscène montre en trop vite, ne se laisse pas imaginer. Pour moi, il n'y a rien de moins érotique qu'un camp de naturiste, si vous voulez.
Eh bien, justement, à ce sujet, j'aimerais vous faire écouter cette chanson de quelqu'un que vous connaissez bien, qui, je crois, parle très bien de cette délicatesse, de la juste mesure, qui s'appelle la pudeur.
Ne rien dévoiler du tout.
Ce n'est que lorsqu'on est à bout.
C'est à bout.
Et de sous chic, c'est une jarretelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Et de sous chic, ce sont des contrats résiliés qui, comme des barbésiers, ont filé. De chouchic, c'est la pudeur des sentiments maquillés outrageusement rougissant. Les deux chouchics, c'est se garder au fond de soi, fragile comme un bas de soie. Les deux chouchics, c'est des dentelles et des rubans, d'amertume sur un paravent
désolant.
De sous-chic, c'est des dentelles et des rubans, d'amertume sur un paravent
désolant.
Les deux sous-chic, ce serait comme un talon aiguille qui transpercerait le cœur des filles.
Serge Gainsbourg, Les Dessous Chics.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Alors Éric Fiat, qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre Serge Gainsbourg en chantre de la pudeur ?
D'abord, je vous remercie d'avoir choisi la version Gainsbourg, non pas que la version Birkin soit à oublier, il a composé cette chanson pour elle, mais en effet, c'est lors de sa dernière série de concerts au Zénith que le grand Serge ose chanter lui-même cette chanson.
Ouais.
Et, mais il y avait chez Gainsbourg, comme chez Dali, à la fois une immense timidité dont il se sortait par la provocation. Et je trouve que là encore, dans cette chanson, Gainsbourg nous laisse dans la certitude suspensive d'une hésitation entre des moments d'extrême délicatesse et des moments de grande provocation.
D'ailleurs, ça m'amène à une question. Est-ce que finalement, ce qui nourrit le désir n'est pas moins la pudeur que la proximité de la pudeur et de l'impudeur, ou que le balancement entre pudeur et impudeur, que Gainsbourg pourrait très bien incarner.
Il incarne très bien ce balancement, mais je tiens à mon idée que la pudeur est elle-même un sentiment balancé.
Ouais.
Le balancement est déjà dans la pudeur, car je le reprends, il y a chez le pudique un désir d'être vu et de n'être pas vu, ce qui est bien rendu, magnifiquement rendu par Valérie dans le poème que nous citions tout à l'heure, un douceur d'être et de n'être pas. Et en effet, le pudique veut être vu sans l'être. Il a le désir de garder un peu d'ombre dans la lumière, de garder un peu d'intime dans l'extime, du privé dans le public. Donc étant donné que l'oscillation, comment disiez-vous,
le balancement
est déjà présent dans la pudeur, je maintiens que la pudeur est chose bonne pour le désir.
Mais alors, qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à ce sujet finalement, si vous revenez un peu en arrière et vous essayez de vous souvenir du début comme ça, le moment où vous vous êtes dit tiens, la pudeur ça va devenir mon sujet, je vais en faire un livre. Quel a été le déclic?
Alors vous me demandez de faire mon introspection. Qu'est-ce qui nous conduit à écrire un livre? Il faut essayer.
Vous trouvez peut-être la question un peu impudique.
Non, oh mon Dieu, elle ne l'est pas. J'évoquais cette oscillation entre la timidité et la provocation. J'admire Dali, j'admire Gainsbourg, c'est peut-être parce que ça me concerne un petit peu.
Ouais, j'ai l'impression. vous êtes comme ça, vous aussi, capable d'audace et puis en même temps assez timide.
Oui, oui.
Et on a l'impression que ce balancement vous touche.
Oui, oui, oui. La timidité, il faut pas qu'elle soit pathologique, évidemment. Mais je préfère la timidité à l'arrogance. Le timide, c'est celui qui ne veut pas prendre toute la place sur le soleil et qui laisse les autres être ce qu'ils sont et laisse les autres être, il y a quelque chose de beau. Mais il y a une autre raison, c'est que à l'université, je m'occupe d'un master d'éthique médicale. Et il se trouve que mes étudiants, qui sont des soignants, médecins ou non-médecins, qui en formation continue font de la philosophie, eh bien m'amènent mes sujets de travail. Si j'ai travaillé sur la fatigue, si j'ai travaillé sur le corps, si j'ai travaillé sur la pudeur, si j'ai travaillé sur la dignité, c'est parce que mes étudiants m'ont mis au travail. Et souvent, aller à l'hôpital, c'est prendre le risque d'assister à la dégénérescence de la pudeur en honte. Ce sont des pudiques qui arrivent à l'hôpital, mais on leur demande de se déshabiller, on leur fait subir des examens qui mettent en cause leur pudeur. Bon, et c'est au fond mes étudiants qui m'ont donné envie de travailler ce thème-là. Il doit y avoir ces deux sources-là. Hein.
C'est vrai que je me reviens maintenant à une conférence de vous à laquelle j'avais assisté. Je vous avais invité à participer à une conférence au cinéma MK2 Odéon, et vous étiez comme ça très, très prudent, très, très pudique, et puis soudain vous êtes mis à imiter les uns, les autres, à imiter Gainsbourg. On a l'impression qu'il y avait quelque chose d'un peu double en vous.
Alors là,
je précise ma question. On avait l'impression que vous n'étiez jamais autant vous-même que dans l'instant d'imiter les autres et de prendre la voix des autres. Ce qui m'a beaucoup intéressé, parce que je crois qu'il y a quelque chose de très impudique dans le fait de s'accrocher à une identité un peu basique, un peu binaire.
Les êtres humains sont ondoyants et divers, comme le disait Montaigne, chaque homme porte en lui la totalité de l'humaine condition, et je crois qu'avoir un petit don d'imitation, attention, je ne suis pas Thierry Leluron, je ne suis pas Laurent Gérard, bon, avoir un petit don d'imitation...
Vous êtes un peu Serge Gainsbourg.
C'est peut-être une façon de rendre hommage aux diverses possibilités existentielles qui se trouvent en tout être humain. Vous êtes Rousseau ou vous êtes Diderot? Pardon?
J'ai dit oui, parce que ça m'intéresse beaucoup d'articuler la pudeur à cette espèce de rapport souple et relâché à ce qui serait une crispation identitaire.
C'est ça.
Ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, il me semble, dans notre époque, c'est des gens qui sont ce qu'ils sont et qui, avec une forme d'impudeur, affirment « je suis cela, votez pour moi, etc., je suis cela ». Et ce que j'apprécie beaucoup dans votre philosophie, c'est cette espèce de délicatesse visant toujours à dire « moi, je ne sais pas trop qui je suis tantôt Johnny, tantôt Gainsbourg, tantôt l'un, tantôt l'autre, et j'ai différents visages ». Et c'est vrai qu'avant de vous recevoir, j'avais pas tellement eu cette idée d'articuler la pudeur à un rapport beaucoup plus souple à son identité.
Écoutez, merci, ça me fait plaisir ce que vous dites. J'évoquais Diderot et Rousseau, ils ont eu une querelle au XVIIIe siècle au sujet de la notion d'identité qui peut-être a beaucoup d'actualité. Et en effet, contre Rousseau qui croyait que derrière les masques que la société nous oblige de porter se trouvait... le vrai visage, stable, authentique et pur. Diderot dit au contraire, à la façon de Montaigne, que l'homme est un être divers. Rappelez-vous cette scène, Diderot fait faire son portrait par Van Loo. Et Van Loo fait un portrait de Diderot. Et Diderot voit son portrait Diderot a l'air perplexe. Comment vous ne vous reconnaissez pas ? Si, j'ai parfois ce visage, mais c'est que j'en ai bien d'autres et... prenant, captant un visage de moi, vous avez manqué tous les autres. Hein. Et en effet, je crois que Diderot a raison, et pas Rousseau. Et c'est peut-être, oui, le goût de l'imitation. D'abord, ça suppose la capacité d'observer comment les gens sont et comment les gens parlent. Et là, la timidité fait justement que vous n'êtes pas toujours sous le soleil. Donc, vous regardez comment les gens vivent. J'ai commencé ça tout petit, je regardais comment les gens vivent. Et puis après, je prends ces voix-là. Oui, c'est peut-être une façon de rendre hommage à Diderot et à Montaigne que de faire des imitations.
Et vous savez, la pudeur... Vous l'avez aussi défini à travers une lecture un peu dualiste. Vous avez dit à un moment dans votre livre, Conversation avec Adèle Van Redd, je crois, la pudeur, c'est quand l'esprit rougit du corps. Je suis pas sûr de bien comprendre.
Alors, c'est pas ma définition. C'est la définition que Max Scheler en donne dans le livre qui s'appelle La pudeur. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette définition. Alors, évidemment, il y a la pudeur des sentiments. Mais ouais, il y a aussi dont parlait Gainsbourg. Un petit guimpin déconné, merde.
D'ailleurs, mais... expliquez-moi un petit peu cette phrase. Les deux sous chics, c'est la pudeur des sentiments.
En poésie, il doit toujours y avoir énigme, et je crois que c'est, même si Gainsbourg ne voulait pas qu'on dit de lui qu'il fût un poète, hein, parce que la chanson est un art mineur, alors que je fais des conneries pour les mineurs. Eh bien, je crois que c'est de la poésie, ça. C'est-à-dire que... Vous savez d'où vient... Alors, le mot pudeur vient de pudere, on le disait tout à l'heure. Mais il vient aussi, pudere vient de pudenda. Et savez-vous ce que veut dire pudenda en latin ?
Non.
Ce sont les parties pendantes de l'homme.
Ah oui.
Les valseuses, comme dirait Depardieu et Devers. Bon. Et en effet, nous pouvons avoir une gêne vis-à-vis de ces parties-là.
Ouais.
Et peut-être qu'une femme peut avoir gêne vis-à-vis de ces parties-là. Je ne crois pas que de notre génitalité, nous devions rougir. Cependant, nous pouvons en rougir. Hein. Scheler dit que la pudeur, c'est l'esprit qui rougit du corps. Moi, je dirais que c'est la possibilité que l'esprit rougisse du corps. Aussi affranchi qu'on puisse être, aussi libre qu'on soit vis-à-vis de sa corporealité et vis-à-vis de sa sexualité, il y a quand même dans le fait d'avoir des parties pendantes ou d'avoir une pilosité ou d'avoir... vous voyez, la pudeur m'empêche de désigner ces parties-là de notre anatomie. Quelque chose qui peut nous gêner. Et alors, en effet, couvrir l'anus, couvrir la vulve, couvrir...
Mais c'est ça la pudeur ? C'est simplement ça ? Ça commence comme ça, en fait.
Je ne sais pas comment ça commence, mais ça se porte à cet endroit-là. Eh bien,
ça veut dire que finalement, la pudeur serait le propre de l'homme.
Alors ça, je le crois à peu près.
Ouais.
Si je reprends la définition de Scheler, la pudeur, c'est l'esprit qui rougit du corps. Ça veut dire que seuls peuvent connaître la pudeur des êtres qui ont à la fois un esprit et un corps. Ouais. Autrement dit, les animaux qui auraient un corps mais n'auraient point d'esprit n'auraient pas la pudeur. Les anges qui auraient un esprit mais n'ont point un corps n'auraient pas d'esprit. Les animaux.
Donc nous avons la chance d'avoir les deux, donc nous pouvons être pudiques.
Et alors en effet, même si, alors je ne suis pas dualiste.
Ouais.
Je pense que ce mot n'est pas un compliment dans votre bouche, vous connaissant un peu Charles. Je ne suis pas dualiste, mais je crois quand même que il y a chez l'être humain quelques difficultés à l'endroit de l'incarnation.
Oui,
c'est-à-dire que
et la pudeur indiquerait cette difficulté d'être incarné.
C'est ça. Mais notre corporealité est quelque chose que nous n'assumons jamais totalement. Alors, lorsque nous sommes trouvés beaux par les autres, par exemple, là, nous assumons notre corporealité. Être trouvé beau, c'est comme le bon sort dans les contes de fées. Même si vous dites des choses pas très intéressantes ou originales ou gentilles, on a l'impression que de votre bouche sortent des rivières de diamants, des pétales de roses.
Vous croyez qu'il ne peut pas y avoir d'animal pudique ?
Alors,
à part l'animal humain.
Alors, évidemment, si les animaux étaient de pur corps, ils n'auraient pas... la pudeur. Et si les anges étaient de purs esprits, ils n'auraient pas la
pudeur. Donc on peut penser que dans une logique évolutionniste, l'animal pourrait devenir pudique.
Parce
qu'au fond, votre proposition est très intéressante. Le propre de l'homme serait la pudeur. En même temps, on sait qu'à chaque fois qu'on a tenté de localiser un propre de l'homme, on s'est retrouvé le bec dans l'eau, pour le dire comme ça. C'est l'objet du très beau livre.
Le propre de l'homme a du plomb dans l'aile. Autre façon de dire la même chose.
C'est ça, le très beau livre d'Elisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes. On voit bien comment, à chaque fois qu'on y a cru, l'angoisse, le rire, la conscience, à chaque fois, ça n'a pas marché. Je pense que ce serait pareil avec la pudeur. Mais vous avez aussi parlé des valseuses, hein, et de ce très beau film, avec notamment Depardieu et Devers. Et justement, il me semble qu'il y a dans ce film quelque chose qui parfois nourrit le désir et qui n'est pas pudeur, mais impudeur. Et c'est quand même aussi une objection qu'on pourrait vous faire, même si on comprend très bien votre idée d'une pudeur qui serait l'ami du désir. Est-ce que parfois, l'autre de la pudeur, l'obscénité, pour le dire comme ça, n'est pas aussi quelque chose qui vient peut-être rendre le désir fou ? Peut-être que la pudeur nourrit le désir, mais que l'impudeur, l'obscénité, attise, aiguise ce désir. Je voudrais vous faire écouter à ce sujet une chanson de quelqu'un que vous imitez aussi souvent, « Que je t'aime », une chanson dans laquelle on entend, je crois, quelque chose d'autre, un autre son de cloche.
Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes.
Alors ça, c'est... Vous en pensez quoi, cette chanson ?
Je l'aime beaucoup. Évidemment, à première vue, on a affaire à de l'impudeur plutôt qu'à de la pudeur.
D'ailleurs, à un autre moment de la chanson, il est dit « Quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix que je t'aime. »
La pudeur, c'est la vertu des classiques, c'est-à-dire que chez les classiques, on parle par litote et euphémisme, on ne dit pas « je t'aime à l'infiniment », on dit « va, je ne te hais point ». Or là, il y a dans la réitération du « que je t'aime, oh, oh, que je t'aime », quelque chose qui peut apparaître comme impudique. Mais,
non, mais
nous ne sommes pas en désaccord.
Même avant d'arriver au « que je t'aime
»,
quand tu n'es plus chatte, que tu deviens chienne, etc., on est clairement dans de l'impudeur. Oui. On est même dans une image qui est assez, qui est pas tellement suggestive, qui est plutôt un peu directe. Or, une de vos thèses, je crois, c'est que l'imaginaire est entravé par l'image, au fond. Et voilà pourquoi la littérature, plus que la pornographie, nourrit le désir, d'après vous, parce que ce qui n'est pas montré est d'autant plus désiré.
Imaginez.
Et là, on a quand même des images, au fond, qui sont assez précises et qui peut-être un peu pourraient bloquer l'imaginaire. Et pourtant, on le constate tous les jours. Le désir est aussi nourri par ça, par cette obscénité, finalement.
Je ne crois pas que nous soyons en désaccord pour cette raison toute simple, c'est que seul un être pudique peut avoir la conscience de son impudeur. De même que seul un être poilu peut être épilé, de même seul un être pudique peut être impudique. Autre façon de dire la même chose.
Ce que vous voulez dire, c'est que lorsque Johnny chante quelque chose d'impudique, il le fait en homme pudique qui se fait violence. C'est ça?
Je fais cette hypothèse-là, et d'abord c'est ce qu'on disait un peu de lui, un homme assez timide et assez gentil, assez attentif.
Ce que disait d'ailleurs le parolier de cette chanson, qui s'appelle Jean Renard, c'est assez marrant parce qu'il s'agit de voir le loup dans cette chanson.
Le loup
ouais, c'est ça, pardon, je l'ai mal dit.
Mais alors, dans la chanson, il est dit à un moment « Et qu'à l'appel du loup, tu brises enfin tes chaînes ». Et on peut dire en effet, cette brisure des chaînes, le passage de la pudeur à l'impudeur. Je n'ai rien contre l'impudeur. Je veux dire par là, alors la pudeur me paraît nécessaire à la naissance, à la surrection, au commencement du désir. En revanche, l'impudeur peut être très nécessaire à la venue du plaisir. Alors, il ne faut pas trop distinguer entre le désir et le plaisir, mais je maintiens que la pudeur est nécessaire au désir et à son entretien, mais que l'abandon de la pudeur, et donc le passage à l'impudeur, la brisure des chaînes, comme dit Johnny ici, peut être quelque chose de formidable pour le plaisir.
Oui, ou même peut-être pour entretenir ce désir qui est né dans la pudeur.
Peut-être, moi c'est pas trop mon truc, mais je répète, il n'y a pas de jugement à porter en ces matières-là. Célébrons l'extraordinaire inventivité d'Eros. Eros, c'est flèche de tout bois, comme disait Brassens.
Pour vous montrer aussi peut-être que la pudeur est affaire de juste mesure, comme vous le dites, qu'on écoute une autre version de la même chanson, parce que vous allez voir qu'on peut mettre un peu de pudeur là où il y avait beaucoup d'impudeur.
Ah, je crois savoir ce qu'on va entendre.
Tu ne te sens plus chat. Tu deviens chien, et qu'à l'appel du loup, tu brises enfin tes liens. Quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui, que je t'aime.
C'est beau, non?
C'est Camille, c'est ça?
Ouais, c'est Camille.
Oui, c'est ça.
C'est une magnifique, réinterprétation. Avec beaucoup de pudeur, justement.
La dualité des interprétations résume notre propos, je crois. Vous m'interrogez sur la littérature. Bon,
ouais,
sur
non, parce que je sais que vous avez hésité entre la littérature et la philosophie. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, peut-être est-ce par pudeur que vous avez laissé la littérature aux écrivains pour n'en faire qu'à travers vos essais de philosophie. Mais avant d'en venir à vous, quand même, c'est cette Camille qui reprend la chanson de Johnny sur un mode tellement différent, avec une pudeur très particulière. Ça vous inspire quoi? Là, je précise ma question. Ça vous inspire quoi au sens où, finalement, il y aurait des franchissements de seuil? Et ce qui, en tout cas, moi, nourrit mon désir, si j'écoute cette chanson, c'est précisément que ce qui était impudique devienne pudique, ou que voilà. Ce qui était pudique devienne impudique. C'est cette espèce de mouvement, comme ça, dialectique, qui, à mon avis, nourrit le désir.
Oui, mais je vous suis tout à fait. Ce que m'inspire la diversité des interprétations, c'est que, alors je ne mettrai peut-être pas sa chanson au même niveau que la sonate à mort-clavier de Beethoven, ou que les quatre saisons de Vivaldi, mais j'ai une passion pour les interprétations. Et il est vrai que le même texte de Vivaldi ou de Beethoven, joué par deux pianistes différents, va donner quelque chose de tout à fait différent.
On peut aussi penser qu'un grand interprète, c'est quelqu'un qui a une forme de pudeur dans son respect de l'original et qui va en faire une variation, une interprétation, oui. Mais sans vouloir se mettre à la place de l'origine, en fait.
Oui, bien sûr, bien sûr. À propos de l'art et de la littérature, si vous voulez. Bon, je continue à faire de la philosophie, mais ouais. Il m'arrive souvent de penser que la littérature est supérieure à la philosophie. Par exemple, pour dire que le désir est mimétique, vous savez qu'un certain René Girard a dit dans des livres passionnants, mais un peu répétitifs et très lourds, que le désir était mimétique. Bon, Molière l'avait dit tout simplement dans le Don Juan. De quoi est-il question? Il est question ici d'une femme. J'en étais sûr, je connais mon Don Juan par cœur, qui est venue ici avec l'homme même qu'elle y doit épouser. Jamais je n'ai vu deux personnes si content l'un de l'autre. Mon amour commença par la jalousie. Le dépit alarma mes désirs. Bon, eh bien, ouais. En quelques mots, Molière dit ce qu'il faut beaucoup de mots à Girard pour dire. Alors donc, souvent la littérature...
Non, je vois bien que vous frôlez l'idée, souvent, hein, d'une supériorité de la littérature. Alors, par rapport à la philosophie.
En même temps, j'ajoute toujours...
Je voudrais qu'on fasse une petite respiration en musique. Sachez qu'après ça, je vous laisse préparer votre réponse, la dernière fois que vous avez vraiment été impudique.
Crépuscule sur le parking, on m'a forcé à boire. Et j'ai le pull taché de jean, de grandes lampées, de myrtille, vodka, avalé à la fiole. C'était juste avant que la nuit ne pâlisse et s'étiole. On pousse encore un peu le volume, les gens se bousculent dans le noir. Les ambiances de pogo, de brume, de baisers et de verre au comptoir. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Une impasse. Tu m'as souri puis t'es parti. Depuis je compte les jours, les heures. Dans la fumée il est minuit. Je voulais juste que tu me brises le cœur. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Juste pour te plaire. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on penserait de moi. Juste pour te plaire, j'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on penserait de moi. Juste pour te plaire, j'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on penserait de moi. Juste pour te plaire, j'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi.
Team Dup, juste pour te plaire.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Alors Eric Fiat, revenons à ce que nous évoquions avant cette chanson. Vous préférez, enfin, vous semblez penser qu'il y a plus de vérité dans la littérature que dans la philosophie, que parfois la littérature dit les choses en une simple scène, alors que la philosophie met des livres entiers, plein de concepts, pour échouer à les dire parfaitement. Et vous avez vous-même hésité, et pourtant, vous êtes philosophe, vous êtes essayiste, vous enseignez à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, je vais y arriver, et donc expliquez-moi un peu comment vous vivez ça. Est-ce que c'est mélangé? Et essayez de m'en parler un petit peu avec pudeur.
Je disais que la littérature est supérieure à la philosophie pour la raison que je disais tout à l'heure et que vous venez de rappeler. J'ai envie de dire qu'en même temps, la philosophie est supérieure à la littérature parce que la philosophie sait que la littérature est supérieure à la philosophie, oui. Alors que la littérature, c'est pas grand-chose de la philosophie. On a besoin des deux et surtout, moi, j'aimerais... mais je crois que vous ne me démentirez pas, à la lecture de vos livres, j'ai plutôt l'impression que nous consonnons. J'aimerais que nous fussions fidèles à une certaine tradition française, oui. Montaigne, Pascal, Diderot, Rousseau, Jean Kélévitch, Grimaldi peut-être aujourd'hui. Oui. Ne sont-ils pas des auteurs qui sont d'aussi grands philosophes que d'aussi grands écrivains?
Et puis Camus, Sartre, Diderot, que vous avez beaucoup évoqué.
Mais bien sûr. Et donc j'aimerais me rattacher à cette tradition-là. Oui. De deux mots, il faut toujours choisir le moindre. M-O-T-S. Je veux dire par là que nous avons parfois besoin du patois philosophique, oui. Du jargon philosophique.
Quand on trouve je comprends, mais si on revient à vous, vous n'avez néanmoins pas encore publié de romans, de textes littéraires, de recueils de poèmes. Vous n'avez publié que des essais, on est d'accord.
Oui, mais c'est... Bon,
ce sont des essais avec une vraie écriture, c'est rare, oui. Et ça fait plaisir, et c'est pour ça que j'apprécie votre travail, vraiment. Mais quand même, je sens que ça vous démange.
Oui, ça vient.
C'est
mais
un roman,
mais je n'ose pas, c'est difficile. Roman, je ne sais pas. Non, une espèce de conte philosophique.
Ouais, vous êtes
une
déjà musicien et philosophe.
Oui.
J'ai lu de très belles pages sur Madame Bovary, sur une scène de Madame Bovary dans laquelle,
ah oui.
Je crois, vous écrivez, c'est la plus belle scène de pudeur que la littérature puisse donner à lire.
Ah oui, Madame Bovary, évidemment, souffre de bovarisme. Comme dirait Johnny, c'est pas étonnant. C'est Lucchini qui disait, ce qu'il y avait de prodigieux chez Johnny, c'est qu'il revisite les évidences. Mais des fois, il faut revisiter les évidences, c'est très important. C'est-à-dire qu'elle a envie d'aimer, elle a trouvé l'amour dans la littérature, et elle veut trouver des hommes dignes des personnages qu'elle rencontre dans les livres qu'elle lit. Et puis voilà qu'elle se trouve à Rouen, mais enfin, une femme mariée, ça ne va pas à l'hôtel. Et donc, je ne sais plus si c'est Léon ou Rodolphe, je crois que c'est Léon. Léon, son premier amant, bon, sentant qu'il ne peut pas la conduire à l'hôtel, lui propose de monter dans un fiacre.
Oui.
Et alors il ordonne au cocher de continuer tant qu'il ne le dira pas de s'arrêter. Il ferme les rideaux, donc Flaubert nous invite à imaginer ce qui se passe. Et si ma mémoire est bonne, voilà ce qu'à un certain moment Flaubert écrit. « Lorsque le cocher demandait s'il devait continuer, il entendit souvent la voix d'un homme, mais parfois la voix d'une femme qui disait « Encore, encore ». Encore. Est-ce qu'Emma Bovary dit ça au cocher ou est-ce qu'elle dit ça à son amant? Je trouve cette scène magnifique et en effet, c'est une scène à la fois de pudeur et à la fois de désir.
Mais ça ne nous explique pas pourquoi vous avez cette passion sur laquelle vous revenez très souvent, qui me paraît surprenante, mais qui, je crois, entretient un rapport avec le sujet de notre émission, une passion pour les lampes halogènes.
Ah oui, les lampes halogènes. Les lampes halogènes, je ne sais même pas si elles existent encore. Mais enfin,
si, je crois.
Bon, les variateurs de lumière, si vous voulez.
Ouais.
Bon, je crois que l'être humain, en effet, est un être ontologiquement pudique, même si je suis d'accord avec vous pour dire que certains animaux flirtent avec la pudeur, et peut-être certains anges, si les anges existent aussi. L'homme est un être ontologiquement pudique parce que, je répète, qu'il aime le clair-obscur. Le clair-obscur est le vrai séjour de l'homme. Nous ne sommes pas faits pour vivre en toute obscurité. Si nous étions toujours cachés dans l'air confiné des maisons des arrière-cuisines, nous aspirerions à la lumière. Notre désir de reconnaissance
est tel que... J'entends bien, je vois où vous nous conduisez. Mais ce que je trouve un peu décevant avec l'halogène, c'est qu'on le règle nous-mêmes, au fond. C'est un peu technique, quoi. C'est un peu trop maîtrisé, on est dans le contrôle encore. Quand on règle la lumière de la lampe halogène avec le régulateur.
Alors, cette image m'est venue parce que justement, à l'hôpital, ou lorsqu'on doit subir quelques examens, alors ça m'est venu comme ça. J'ai un élève, un étudiant qui est devenu un ami, qui était gastro-entérologue. Il est en retraite maintenant. Qui dit gastro-entérologue dit possibilité d'une proctologie. Et alors, dans son cabinet, il faut parfois qu'il demande à certains hommes, à certaines femmes de se mettre dans une certaine position, tout nu. Et alors, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il fût très attentif à qui entrait dans le cabinet. Parfois, pour certains, ça pose aucun problème. Bon, je me mets où, d'accord, voilà. Pour des vieilles dames très coincées, des vieilles dames très dignes, je crois qu'elles avaient repoussé le moment de l'examen, mon Dieu, c'était très difficile. Et à ce moment-là, il faisait l'ombre dans son cabinet. Et alors l'ombre, on peut la faire. C'est une façon, si vous voulez, de jeter un voile de fin silence sur le corps de l'autre, une sorte de délicatesse, une ombre de délicatesse. Et alors, c'est pas forcément faire l'obscurité, c'est parfois parler tout doucement.
Non, j'entends bien.
Autre chose est de dire, bon, mettez-vous à quatre pattes, écartez les fesses. Autre chose est de dire, s'il vous plaît, je vais juste regarder un petit peu, n'ayez pas peur. Parfois, c'est la douceur des mots. Donc, la lampe halogène, c'est un gastro-entérologue qui m'en a pris l'importance.
Éthique et esthétique du clair-obscur, pourrait-on dire. J'en reviens à ma question que j'avais annoncée tout à l'heure, je vous ai permis de la préparer. Quand avez-vous été vraiment impudique?
Alors, vous m'avez fait réfléchir, et je crois que la dernière fois, c'est lorsque j'ai dû dire au revoir à mes étudiants de M2. C'était la dernière session de cours, c'était il y a quelques jours. Et cette promotion, donc M1 et M2, je répète, ce sont des soignants, médecins ou médecins qui font de la philosophie. Et le cours se termine, c'était le dernier cours. Et j'étais un peu ému. Alors c'était par Zoom, malheureusement. Bon, et à un certain moment, je sens une émotion prendre et je m'approche de l'écran et je leur dis « Je vous aime beaucoup ».
Oui, c'était trop.
Alors, peut-être une fois, ça aurait été. Mais j'étais pas sûr qu'ils l'aient tous entendu et tout entendu. Du coup, je l'ai répété.
Vous avez crié, je vous aime.
Et alors là, il y a quelque chose. Évidemment, parce que la pudeur, comme disait Jean Kelevitch, fait partie de ces vertus précaires et précieuses, au rang desquelles on trouve aussi, l'humilité ou la modestie. Hein, on ne peut pas être modeste et le dire. Le type qui dit, moi, je suis un type d'une modestie extraordinaire. Guitry disait, j'ai toutes les prétentions sauf celle de l'humilité. Même, on ne peut pas proclamer qu'on est pudique sans devenir impudique. Donc là, je crois avoir manqué de pudeur et je l'ai regretté après.
De toute façon, si la pudeur est cette vertu de la juste mesure, on est toujours en train de se réajuster, toujours en train d'accommoder les choses.
Voilà.
On n'est jamais certain d'être vraiment, vraiment pudique. Je voudrais vous faire écouter une chanson sublime d'Alain Souchon qui, je crois, parle exactement de ça.
Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie. Joli petit sein de mon ami, là je dis rien, 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 rien ne vaut la vie, rien, 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 rien ne vaut la vie, rien, 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 rien ne vaut la vie.
Alors vous en pensez quoi? Rien ne vaut la vie ou la vie ne vaut rien?
Je crois que nous oscillons toute notre vie entre des moments où nous pensons que l'existence est un cadeau et des moments où nous pensons que l'existence est un fardeau. Je m'explique. Il m'arrive de me dire, j'aurais pu ne pas être si mon père n'avait pas rencontré ma mère, si la conversation n'a pas pris le tour charmant qu'elle a pris, neuf mois avant ma naissance, il ne s'était rien passé, si comme le monte Woody Allen dans un film génial, après la joie paternelle, ça n'avait pas été ce spermatozoïde-là qui serait arrivé à l'ovule en premier, je ne serais pas. Donc j'aurais pu ne pas être. Et puis je ne serais plus parce qu'un jour je mourrais. Il m'arrive de me dire, j'aurais pu ne pas être. Oh, je suis, quelle chance, la vie est un cadeau, une merveille. Je ne serai plus car je vais mourir un jour, je suis encore, quelle chance, la vie est une merveille. Mais il m'arrive parfois de me dire, j'aurais pu ne pas être, je suis, est-ce que ça vaut le coup? Là encore, Gainsbourg a fait chanter à Birkin ses vers sublimes, avec cette difficulté d'être, on se dit que peut-être il aurait mieux valu ne jamais naître. Et puis on se dit qu'avec cette difficulté d'être, il vaudrait mieux déjà ne plus être. Ce que j'appelle l'existence fardeau. Toute notre vie, nous oscillons entre des moments où nous pensons que la vie est un cadeau et des moments où nous pensons qu'elle est un fardeau. Donc les deux expressions souchoniennes sont vraies. Il y a des moments où nous pensons que la vie ne vaut rien et des moments où nous pensons que rien ne vaut la vie.
Et ces vers que Gainsbourg a fait chanter à Birkin, ils sont de qui ?
De lui.
Ah oui, bien sûr.
Mais bien sûr, parfois, lui, c'est dans le dernier album où il y a notre amour fou ne resterait que des cendres. Ouais. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre.
Et souvent, en fait, ce qui fait l'intensité de la vie, c'est cet aller-retour entre voilà, le cadeau et le fardeau, cette espèce de cette manière qu'on a d'être bousculé par une vie qui soudain nous paraît la plus belle des aubaines et une vie qui nous paraît vraiment insupportable.
Oui, tout à fait. Joie et angoisse sont les deux faces d'une même médaille.
Mais est-ce que la pudeur est une manifestation de joie ou alors est-ce que la pudeur est plutôt une façon de cacher sa joie ?
Plutôt une façon de cacher sa joie.
Il y a des joies impudiques, hein. Des joies qui se répandent de manière
bien
impudique.
Sûr, bien sûr.
Et qui, au lieu d'être communicatives, agressent les autres finalement.
Bien sûr, bien sûr. Angoisse et joie, oui, parce que. Alors, le plus grand poète de l'angoisse, pour moi, c'est Baudelaire. Le plus grand poète de la joie, c'est La Fontaine. Parce que angoisse, c'est angustia. Vous savez, le resserrement, anguéré, serré, étranglé qu'a donné angine. L'angine, qu'elle soit de la gorge ou de la poitrine, c'est un resserrement, angustia. Hein. Et Baudelaire parle quand le ciel baille lourd, pèse comme un couvert. Quand on est angoissé, on est centré. Il pète, il y a quelque chose comme une pression qui vient vers l'intériorité. Au contraire, hein, les anciens disaient que l'angoisse, c'est la rétractatio animae et corpori, la rétractation de l'âme et du corps, hein, ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Mais La Fontaine, le plus grand poète de la joie, parce qu'il dit, hein, la joie, c'est la dilatatio animae et corpori, la dilatation de l'âme et du corps. Pourquoi ? À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec. Alors vous allez me dire, c'est sucré inverse, et à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, mais même s'il n'y avait pas eu de... Alors je sais pourquoi il chante, c'est parce que le renard a besoin du camembert, mais même s'il n'y avait pas eu de fromage et de libido camemberti chez le renard, je suis sûr que quand on ne se sent pas de joie, on ouvre un large bec. Hein. Et en effet, la jouissance amoureuse, par exemple, c'est une dilatation.
Vous pensez que, mais vous n'aurez pas vraiment le temps de répondre, mais que c'est plutôt l'angoisse ou plutôt la joie qui nous demande le plus de pudeur ? Vous pouvez répondre en une phrase.
Je pense que la pudeur doit surtout nous conduire à cacher nos angoisses plutôt que nos joies. Oui. Formule sublime de Jean-Louis Trintignant. C'est pas du Trintignant, c'est du Prévert. Mais Trintignant a perdu sa fille, vous savez le drame que ça a été pour lui. Bien sûr. Se cache pendant plusieurs années. Et un jour, il revient, il a vieilli, il ne voit plus très bien à Cannes pour recevoir un prix. Et il dit juste ces mots. Juste un petit poème de... Il est très court, de Prévert. Il faut s'efforcer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Ben voilà.
Merci beaucoup Éric Fiat. L'émission touche à sa fin et ma manière de vous remercier, c'est je crois de peut-être réussir à poser cette philosophie de la vie que vous nous avez fait éprouver. J'aurais envie de dire que c'est une philosophie musicale, une philosophie délicate, une philosophie de la juste mesure, une philosophie aussi de l'identité multiple. On a entendu votre manière de prendre comme ça la voix des uns, la voix des autres. Et on a eu l'impression que vous n'étiez jamais autant vous-même que dans ces moments où vous empruntiez la voix des autres. Voilà qui fait du bien en une époque de crispation identitaire. Voilà qui fait du bien en une époque où l'impudeur se répand. Merci beaucoup Éric Fiat, j'espère à très bientôt. Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot avec à la technique Mathias Alléon, à la programmation musicale Thierry Dupin, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver tous les matins à 10h sur France Inter, sous le soleil de Platon. À suivre après le Flash Info, Place du Marché avec Antoine Lee. Bonjour Antoine.
Bonjour Charles. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie. Avec nos invités, on va parler d'éducation aux fausses informations à l'école, de pollution de l'air et on rencontrera une guide de haute montagne.
Voilà vraiment de beaux sujets. Merci Antoine Lee.